sur PFM au téléphone. Nous continuons dans Info 30 notre série d'interviews des têtes de liste avec Éric Mascaro, enseignant. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tête de liste de l'Union populaire républicaine. Sur votre site internet, vous vous dites de sensibilité de gauche. C'est quoi pour vous être de sensibilité de gauche ?
Alors pour moi, être sensibilité de gauche, ça correspond en fait à, comme je l'explique dans ma biographie, c'est-à-dire que c'est une lutte à vie contre l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est-à-dire que j'ai, en fait, mon ennemi, c'est la finance.
Sinon, vous n'avez pas eu de parcours, vous n'avez pas été écarté au sein d'un parti de gauche quelconque.
Comme 90% des personnes qui composent l'UPR, nous n'étions jamais encartés auparavant.
Qu'est-ce qui vous a donné envie, en 2012, de rejoindre un mouvement politique, celui de François Asselineau, qui a collaboré avec des hommes politiques de droite comme Philippe Devilliers ou Charles Pasqua?
En fait, c'est la première question que j'ai posée à M. Asselineau le premier jour où je l'ai vu. Il est venu chez nous à Villeneuve-d'Ascq et à Roubaix. J'en avais entendu parler par un ami. J'ai écouté, du coup, avant d'aller le voir en conférence, j'ai visionné sa conférence, les 10 raisons de sortir de l'Union européenne. Il n'y avait rien de droite, en tout cas, il n'y avait rien de choquant dans ce qu'il disait, puisqu'il expliquait objectivement et techniquement ce dans quoi nous vivions politiquement et économiquement. Du coup, ça m'a vraiment interpellé. Je suis allé voir le personnage sur place et je lui ai posé des questions. Et même si au début, j'étais forcément très réticent à cela, je me suis rendu compte que quoi qu'il advienne aujourd'hui, nous sommes dans une posture résistante. C'est-à-dire que le pouvoir politique a été confisqué par l'Union européenne et quoi qu'on en dise, si on ne sort pas de là, on vit avec. Et donc aujourd'hui, les gens votent à droite, à gauche, extrême droite, extrême gauche, ça ne change rien. Vous pouvez regarder, par exemple, en Italie, ils ont voté bien à droite à un moment, en Hongrie, très à droite, en Grèce, très à gauche, en Espagne, à gauche. N'empêche que, comme l'a dit Viviane Reding, l'ancienne vice-président de la Commission européenne, il y a 80% des lois nationales de tous les pays européens donc, qui viennent des traités européens.
Comment jugez-vous le bilan du dernier mandat du PS et de ses partenaires ?
Que dire d'autre que il y a un budget, il y a une dette qui correspond à peu près à 80% du budget. Ce qu'il y a de terrible, c'est qu'on est en campagne, les gens font des promesses, on veut des réponses très précises et très techniques. Or, l'enjeu essentiel de ces élections a eu lieu il y a quelque temps, et c'est la régionalisation. Et ça ne faisait partie d'aucun programme, et c'est bien la preuve que on n'est plus vraiment en démocratie. Les lois essentielles, puisque ça va, il y a une réforme territoriale qui est en cours, finalement, c'est dans aucun programme. Et donc, son bilan, c'est le bilan de techniciens qui sont chargés de mission et qui... peut-être parfois aussi, il faut dire ce qu'il est, font ce qu'ils peuvent, mais quand on se présente et qu'on ne dénonce pas le système dans lequel on est, on l'assume.
Dans les mesures importantes de votre programme, vous souhaitez réorienter massivement les aides vers l'artisanat et les petites, très petites et moyennes entreprises. Réorienter, ça veut dire que vous comptez prendre dans un autre budget ?
Si vous permettez, on va fonctionner en entonnoir. Comme je vous l'ai dit, on annonce 80% de dette, une dette équivalente à 80% du budget. Et c'est valable pour les deux régions qui fusionnent. Donc on va rester à 80%. Ceci dit, c'est ce qu'on nous annonce. Une des premières réformes, si ce n'est la première que nous mettrons en place, c'est que c'est un audit indépendant de toutes les finances de toute la région. Déjà, on verra ce qu'on a. Ensuite, on verra les priorités. L'emploi étant une priorité, on veut absolument orienter ce qui était prévu pour les entreprises vers les TPE, les PME. C'est quoi notre objectif en vérité ? Parce qu'il n'y a pas que ça. C'est qu'en même temps, on veut mettre en place une charte de conditionnalité sur des critères sociaux, mais surtout de création et de maintien d'emplois durables. Parce que c'est pas une rhétorique, mais si c'est une vérité absolue. Il y a les articles 32 et 63 des traités européens qui permettent les délocalisations et surtout qui interdisent de s'y opposer. Donc, en mettant en place une charte de conditionnalité, ça permettra de limiter non pas la délocalisation, mais en partie. Parce que voyez-vous, le mot délocalisation est né dans le vocabulaire français en 1993, c'est-à-dire un an après Maastricht. Ça n'existait pas avant, ça n'était pas possible avant.
Comment comptez-vous mettre en œuvre justement cette réforme d'aide vers l'artisanat et les très petites et moyennes entreprises?
Alors, elle se fera par. Alors, c'est pas le conseiller général régional, pardon, qui aura cette mission. Ce seront son équipe. Et à ce moment-là, on a toute une équipe de techniciens qui mettront en place le système. Et je pense que c'est peut-être pas le moment, le matin, d'expliquer en long et en large le fonctionnement. C'est notre programme répond aux prérogatives de la région. Il répond aux besoins aussi, et il a été fait très sérieusement. Il est vérifiable sur Internet, sur le site upr.fr. Tout est fiable. Alors aujourd'hui, me demander techniquement ce qui se passe, ben, pour une fois que j'ai la parole, j'aurais préféré parler sur des sujets plus importants comme la régionalisation ou autre. Et sachant que dimanche soir, la seule chose qui préoccupera les grands médias, ce sera est-ce que c'est un vote sanction pour ou contre le Parti socialiste, alors qu'on est régional, est-ce que les gens vont voter ou non Marine Le Pen au deuxième tour? Voilà, je préférerais qu'on en voilà qu'on étaye sur ces points-là, et notamment sur le déni de démocratie.
Alors, dans l'éducation, il y a un point qui vous agace, c'est que vous souhaitez mettre quand même un frein à la politique du tout numérique dans les lycées. Pourquoi?
Parce que il s'agit de lever la tête. Moi, je suis enseignant, j'ai deux ordinateurs dans ma classe. Le numérique, le tout numérique, en fait, ça nous est présenté comme une solution évidente à tout. Non, déjà, et premièrement, c'est un coût, et c'est un coût d'autant plus important qu'une fois que tout est installé, les produits deviennent vite obsolètes et dépassés. Ensuite, on ne mesure pas pleinement la portée pédagogique. Enfin, on ne sait pas encore mesurer, même si on a quand même des idées sur le bien fondé d'une présence si accrue de nos enfants face à des écrans voilà, tactiles. Il ne s'agit pas d'être contre les nouvelles technologies, bien sûr, hein, mais c'est un investissement qui me paraît peu pertinent. C'est à toute autre mesure, j'aimerais bien qu'on discute du canal Seine-Nord, parce que c'est encore des projets qui ne sont pas très pertinents. Et de fait, ce qui investit en tout numérique, il ne s'agit pas de pas de numérique, c'est le fait que ce soit tout numérique, qu'on vraiment nous le vende comme la solution. Finalement, c'est un investissement qu'on voudrait remettre en moyens humains.
Pour revenir un petit peu sur la formation, dans votre programme, vous souhaitez augmenter les crédits d'apprentissage, la formation professionnelle, puis aussi accroître les aides pour les métiers en tension. Alors, vous me parliez justement de 80% de déficit. Comment comptez-vous faire en plus avec les baisses de dotation de l'État pour pouvoir mettre en place ce type de réforme?
Eh bien, nous jugerons en fonction des priorités. Ça ne vous aura pas échappé. Je vous remercie vraiment d'avoir pris la peine de lire notre programme, mais vous aurez remarqué que nous ne faisons pas de promesses à l'emporte-pièce. Je ne vous dis pas, monsieur, que je ne dis pas aux citoyens non plus, évidemment, que nous allons créer 60 000 emplois. Notre programme a été fait avec une équipe d'économistes techniciens. Nous avons des gens qui travaillent à l'intelligence économique. Nous ferons notre audit. Bon, on va pas mettre 2 ans avant de prendre des décisions, évidemment. Mais nous allons faire un audit, et en fonction des finances, il y aura des priorités. L'emploi, c'est une priorité, d'autant plus que nous sommes dans une région qui se désindustrialise depuis déjà 1968, mais surtout depuis 2009, 2008-2009. L'emploi chez les jeunes, c'est un fléau. Nous n'avons pas le choix que d'investir. C'est un investissement dans l'apprentissage, puisqu'on sait qu'à peu près, comme on le dit, hein, il y a 70% des premiers emplois qui ont été trouvés au cours de la formation. Donc, c'est ça. Il y a des priorités. Il y a des priorités.
C'était Éric Mascaro, tête de liste aux élections régionales Nord-Pas-de-Calais-Picardie de l'UPR, Union pour les Républicains.